nous nous arrêterons sur une parole qui se trouve à trois reprises, à peu près dans les mêmes idées en tout cas. Le texte sur lequel nous nous arrêterons, c'est « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Mais d'abord, il nous faut lire le contexte, parce que ces différents événements se tiennent, il y a un fil rouge qui les traverse, et je pense qu'il est important de voir l'ensemble. Matthieu, chapitre 19, verset 13. « Des gens lui amenèrent à Jésus des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains, et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches. Mais Jésus leur dit, laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin. Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, Maître, c'est au chapitre 19, verset 16, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels » Lesquels ? Demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. » « Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Et nous ?» Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous ? Jésus leur dit, vraiment je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9h du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3h de l'après-midi et chaque fois il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Et le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers, pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5h du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ceux-là sont arrivés les derniers, disait-il. Ils n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Mais le maître répond à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord ? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux ? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon ? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en cours de route, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec les fils. Quel contraste avec les versets précédents. Hein. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu ? » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus leur répondit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Oui, » lui répondirent-ils, « nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez, en effet, ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les rabroua pour les faire taire, mais ils se mirent à crier de plus belle, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Seigneur, répondirent-ils, que nos yeux s'ouvrent !» Pris de pitié pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Il y a beaucoup de phrases du langage courant qui sont empruntés à la Bible, même sans que les gens le sachent. Style, vous êtes dans une file d'attente et vous devez vous absenter. Le résultat, c'est que vous vous retrouvez à la queue. Alors quelqu'un, peut-être le sourire en coin, vous dira, les premiers seront les derniers. Cette phrase de Jésus, citée à 3 reprises dans ce texte que nous venons de lire, est étonnante. C'est vrai qu'il est dans la mentalité orientale de cultiver quelque part le mystère. Mais au-delà du style, cette phrase contient des vérités, capitales même, pour la vie sur la terre et dans le ciel. Alors d'abord, posons-nous cette question, quels sont les premiers et les derniers ? À qui Jésus pense-t-il ? Il ne le dit pas expressément, alors j'espère que nous ne nous trompons pas, mais essayons de réfléchir à cela. Dieu s'est révélé au peuple juif en premier, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Les autres peuples étaient, dans l'ensemble en tout cas, sauf quelques individus, étaient éloignés de cette connaissance. Le peuple d'Israël avait été appelé en premier. Mais les promesses de l'Ancien Testament déjà annoncent qu'un jour, tous les peuples pourront connaître le vrai Dieu et vivre avec lui. Et Jésus dit à ses disciples que ceux qui étaient les derniers jusqu'alors vont chercher Dieu et que le peuple juif, qui va le rejeter ensuite comme le Messie, dit-il dans ce texte, deviendra le dernier. L'apôtre Paul reprend ce thème, en particulier dans les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains. Et il parle des deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Là, déjà, le dernier, Jacob, est devenu le premier, et le premier des deux jumeaux, Ésaü, est devenu le dernier dans le plan de Dieu. À cause de la décision de Dieu, mais aussi à cause de l'attitude de ces deux hommes. Nous voyons par ailleurs que l'enseignement de Jésus souligne aussi quelques contrastes. Au début de son ministère, un centenier romain vient implorer Jésus de guérir son serviteur. Et Jésus dit à tous, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ça veut dire que celui qui était haï, un centenier romain, en tant qu'envahisseur, était valorisé par Jésus à cause de sa foi. Notre situation moderne révèle peut-être aussi un peu le même contraste. C'est l'Europe qui a suscité au XVIe siècle des hommes qui ont permis qu'on redécouvre la Bible. De l'Europe, des milliers de missionnaires en sont sortis pour évangéliser la terre entière. Mais malheureusement, l'évolution a été depuis bien négative. Heureusement, maintenant, c'est le contraire. Et c'est de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud que viennent ces missionnaires en Europe et en France en particulier. D'autre part, actuellement, la progression des chrétiens en Europe est de à peu près 3%, alors qu'elle est dans les autres continents de 300 et de 400%. Les premiers seront les derniers seront les premiers. À un autre niveau, certains qui connaissent l'Évangile depuis longtemps n'ont peut-être pas pris de réelles décisions pour suivre Christ, à la différence d'autres qui ont entendu parler de la vie avec Dieu depuis peu et qui se sont engagés pleinement pour lui. Jésus parle de ceux qui sont considérés comme les derniers et qui sont même rejetés par les disciples, à savoir les enfants. Mais il redonne la valeur à ces petits. Laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. À la fin de notre passage, il y en a d'autres qui sont rejetés parce qu'inutiles, des aveugles, des parasites de la société. Ils crient, on les rejette, pareil, mais Jésus va vers eux et leur redonne toute leur valeur, leur identité. Les derniers, selon les hommes, sont ceux qui sont d'autant plus acceptés par le Seigneur. Dans notre société ou dans l'Église, quels sont ceux qui sont rejetés ou qui se sentent rejetés? Le Seigneur veut les bénir tout particulièrement. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Je vous propose maintenant de nous arrêter sur deux domaines de la vie dont il est question dans ces différents textes. D'abord, de parler de l'humilité. Après avoir relevé l'humilité des enfants, Jésus va s'entretenir avec un homme qui est considéré dans la société parce que sa vie, semble-t-il, est irréprochable. Il a accompli tous les commandements. Jésus ne cite pas les premiers qui concernent la relation avec Dieu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué un jour. Mais pour le reste, il a absolument obéi à tout depuis sa jeunesse. Il doit être parmi les premiers sauvés. Et Jésus, en mettant le doigt sur son problème profond, va montrer qu'il est loin, très loin du salut. Jésus a souvent repris les religieux de son époque, surtout par rapport à leur vie. Tout était dans l'apparence. À cause de leur connaissance de la loi, ils auraient dû avoir un comportement cohérent avec ce qu'ils savaient. Mais selon Jésus, ils étaient les premiers à être orgueilleux, égoïstes, hypocrites, voleurs. En fait, ils prouvaient qu'ils étaient, par leur attitude, loin derrière certains que eux rejetaient. Vraiment, je vous l'assure, dit Jésus, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu. Il vous a montré ce qu'est une vie juste et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et bien que vous ayez eu leur exemple sous les yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui. Attention donc à ne pas nous surestimer tout en dévaluant les autres. Les disciples sont près de Jésus depuis presque 3 ans. Ils ont entendu son enseignement, en particulier sur l'humilité. Mais un problème éclate entre eux qui va révéler qu'ils ne sont peut-être pas les premiers aux yeux du Seigneur. Malgré leur connaissance, ils ont un complexe de supériorité. C'est la mère de Jacques et Jean qui ouvre le feu. Elle se prosterne devant Jésus. Remarquable. Mais ses propos, ensuite, ne montrent pas la même humilité. « Voici mes deux fils, promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Ça veut dire qu'ils soient les premiers parmi les 12 là qui auront une place de choix là-haut, dans le ciel. Mais sous-entendu, parce que mes deux fils sont les premiers, les meilleurs. Rien que ça. Et Jésus répond en s'adressant aux deux frères. Parce qu'il sait que ce sont eux qui sont derrière cette demande, même si, par humilité, ils se sont effacés en ne demandant pas directement cette demande. Et puis, il y a les 10 autres qui reprochent à leurs compagnons leur arrogance. Mais là, encore une fois, en catimini, par derrière. Que se cache-t-il derrière ce reproche? Et là encore, Jésus répond à tous. Seraient-ils jaloux donc parce que eux, les deux frères, dit à leur mère, ont osé le demander devant eux, avant eux? C'est à eux tous qu'ils rappellent alors que les premiers aux yeux des hommes ne le sont pas devant Dieu. Et Jésus, le maître, alors, juste après, indique que l'humilité est le fondement de son œuvre, de sa vie. Il est venu vivre dans la petitesse et dans l'humilité, comme le dernier, jusqu'à l'humiliation de la croix, à la place de ceux qui se croient les premiers, en rançon pour eux, dit-il. Et pour être au bénéfice du salut qu'il offre, il est donc nécessaire de reconnaître qu'on s'est éloigné de lui et qu'on est dans l'impossibilité de se sauver par soi-même. Il n'y a personne d'autre dans ce récit, si ce n'est ceux qui lisent ce texte, comme nous ce matin, et qui trouvent que les disciples, ils ont exagéré et qu'ils se trouvent bien présomptueux. Que se cache-t-il derrière le jugement sur les autres? Nous, les lecteurs juges, sommes-nous, nous semble-t-il que nous sommes devant les 12 qui ont réagi de cette manière-là? Les rapports qui dirigent nos relations sont peut-être plus que nous le pensons, du premier au dernier d'entre nous, des rapports de force, de pouvoir, d'influence. Et juste après l'épisode de la demande des deux frères, se trouve le récit de 2 aveugles qui, eux, se mettent à voir parce qu'ils ont vécu un total abandon par la foi en Jésus. Le second thème que nous pouvons voir dans cet ensemble de textes, et puis à travers notre phrase leitmotiv là, c'est la vie éternelle. Voilà notre thème. Jésus va raconter une parabole très déstabilisante, suite au refus de l'homme riche, mais aussi suite à la remarque des disciples qui disent « Nous avons tout quitté pour te suivre. Nous sommes bien les premiers donc. » Et Jésus, à travers la parabole des ouvriers loués à différentes heures, va renverser le raisonnement humain quant au salut. Quelle injustice! Qu'on travaille 10 heures ou une heure, on reçoit le même salaire. Drôle de patron. Ah, si les syndicats avaient existé, ça ne se serait pas arrêté là. Jésus et la loi travail, ce n'est pas la même loi. Mais du reste, les réactions ont été fortes dans notre histoire, raconte Jésus. Jésus sait bien que les syndicats religieux, et ils sont très nombreux aujourd'hui plus que jamais, sont opposés à la loi de la grâce. Jésus affirme à travers cette histoire que le salaire, la vie éternelle avec Dieu, est sans rapport avec la quantité de travail accompli, sans rapport avec les bonnes œuvres. Comment penser en effet qu'on pourra comparaître devant Dieu en lui disant « Regarde-moi », alors qu'il nous regarde et nous considérera à travers Christ qui est mort et ressuscité à notre place. Il n'y a donc qu'une seule manière d'être sûr de son salut, c'est d'accepter de répondre à l'appel de Dieu qui ensuite donne, selon sa promesse, sans comptabiliser les œuvres. À tous ceux qui le suivent, ceux qui vivent pour lui, il donne gratuitement la vie éternelle. Après le refus de l'homme d'abandonner ce qu'il possède égoïstement, ce qu'il possédait plus exactement, Jésus dit à ses disciples qui lui demandaient « Qui peut être sauvé alors ?» Jésus répond aux hommes « Cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Et c'est là que les surprises certainement seront nombreuses, autant par rapport à ce qu'on estime facilement parmi les derniers qui pourraient être sauvés, que parmi ceux à qui on donne, comme on le dit, le bon Dieu sans confession. Et pour terminer, remarquons que cette affirmation se retrouve deux fois sous la même forme et une troisième fois en d'autres termes, à savoir, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ceux que Dieu considère comme grands, premiers, sont ceux qui vivent dans une relation d'humilité. Le rapprochement avec notre citation du départ, c'est qu'il n'y a personne qui soit supérieur. Les rapports humains doivent être de soumission réciproque, d'humilité et de service mutuel. Le vivre, c'est connaître la solution à bien des problèmes et des conflits. C'est être grand que de vivre dans le service pour les autres. Jésus donc renverse le mode de pensée et de fonctionnement de l'être humain qui cherche à réussir en jouant des coudes, quitte à écraser, déjà par les paroles. Alors je me suis rappelé cette histoire presque incroyable de l'Australien Stephen Bradbury aux Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City. Il faisait du patinage de vitesse. Il est le dernier qualifié en quart de finale. Repêché de justesse parce que le deuxième, il était troisième de sa série, le deuxième avait écarté un concurrent. Donc il a été au dernier moment qualifié. Au cours de la demi-finale, il est le dernier de l'épreuve de sa série, quand plusieurs s'accrochent et tombent. il est de justesse qualifié. Lors de la finale, les quatre autres sont toujours devant lui. Dans le dernier virage, ils sont les premiers, les quatre premiers, lui il est derrière. Les quatre sont au coude à coude et les quatre, parce qu'ils sont au coude à coude, chutent. Notre Australien passe la ligne en vainqueur et obtient la médaille d'or. Il arrive donc dans les histoires vraies que les derniers sont les premiers. Mais il se trouve que nous sommes, sous certains angles, tellement tordus que nous restons sans nous mettre en avant, comme Jacques et Jean ont su le faire, en retrait, sans témoigner, sans prier, pour que les autres ne remarquent pas nos imperfections peut-être, ou simplement par égoïsme, ou par paresse, ou pour chercher à être humble. Ça, c'est un sacré problème sans solution. L'attitude de service envers les autres devrait dépasser et remplacer ces complexes, qu'ils soient de timidité ou d'autres, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée. Il devrait être dépassé et remplacé par l'amour. Parce que l'amour est profondément lié à la recherche de l'autre en premier. Alors Seigneur, que je ne cherche pas tant à être le premier ou le dernier, mais que j'apprenne à toujours mieux vivre pour toi et pour les autres. Amen.